Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Camille Chemreuil a pris et repris la route, passionnée par les différentes manières de voir le monde, les enjeux et les répercussions de celles-ci sur notre société. Lors d'un voyage, Camille rencontre, au détour d'un chemin, en Azerbaïdjan, Pokuza, une jeune femme de son âge. Une rencontre décisive pour les deux femmes. Camille décide, dès cet instant, de passer derrière la caméra et de croiser les regards. J'ai rencontré Camille au Grand Bivouac, lors de la projection de son documentaire. Dans cette émission Regarde ailleurs, Camille revient sur son parcours et l'histoire de sa rencontre avec Pokuza. Mais d'abord, elle nous présente le festival du Grand Bivouac en quelques mots. Bonjour Camille. Alors le Grand Bivouac, c'est quoi ? Présente-moi un peu ce festival, parce que avant d'être voyageuse, tu étais ici dans l'organisation.
Oui, j'ai travaillé 2 ans pour le Grand Bivouac et puis avant j'étais bénévole. Et le Grand Bivouac, festival du voyage et des découvertes partagées, il y a beaucoup de projections de films. Ce qui est agréable, moi je trouve, c'est que les films, ils sont très différents. Il y a des films d'ethnologues, des films de voyageurs, des films de géographes. Et puis au-delà de ça, c'est l'atmosphère extérieure parce qu'il y a plein de rencontres possibles autour des ateliers, autour des agences de voyage aussi, de la librairie, plein d'animations en extérieur, et tout ça c'est prétexte à des rencontres. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent les gens ils nous disent, quand on vient au Grand Bivouac, on déconnecte pendant 3 jours. Mais en fait, on déconnecte pour mieux reconnecter. C'est-à-dire qu'on rencontre plein de gens, il se passe plein de choses, on rencontre aussi des gens qui sont dans d'autres pays à travers les films. Et après, on a une sorte de pêche qui dure alors plus ou moins longtemps pour les gens, mais une semaine, un mois, et on a une pêche, on se sent debout, on se sent humain, on se sent vivant, et on a envie de croquer le monde.
Ben voilà, on est ici dans ce pays où il y a des croqueurs de monde, donc on est à Albertville au Grand Bivouac, Camille avec moi. Avant que tu me parles de ta présence aujourd'hui, parce que tu es venu pour présenter ton film, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton itinéraire personnel et qu'est-ce qui a fait que tu deviennes peut-être bénévole dans un premier temps sur ce festival du voyage. Qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage? Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses à cette envie d'ailleurs et de croquer le monde comme tu dis?
Ça commence par de la chance, c'est-à-dire que mes parents aimaient beaucoup voyager, donc dès que j'étais en âge de marcher, ils m'ont emmené à travers les routes du monde, donc ça commence par une chance. Et puis je me souviens en fait surtout des rencontres, un peu moins des paysages, c'est marrant, mais voilà, des gens, parce que forcément quand on part comme ça, mais même quand on est en France, on rencontre du monde. Et puis voilà, je me souviens d'avoir été dans un bus toute petite et puis les gens nous prennent de main en main, de bras en bras, on se retrouve au fond du bus avec des gens qui parlent une langue qu'on connaît pas encore. Et voilà, et tout ça c'est poétique d'abord. Et après quand on rentre plus dans la rencontre, c'est super intéressant. Et
tu as des souvenirs comme ça, enfant, que tu pourrais partager avec nous?
J'ai ce souvenir là dans le bus. Après j'en ai plein, j'ai un souvenir aussi d'avoir rencontré un monsieur dans un petit village au Népal, voilà, qui fabriquait du cidre à partir de pommes naturelles. Et je me souviens, on était chez lui, donc souvent il a une véranda, et voilà, on allait régulièrement. Je me souviens de l'odeur, je me souviens de ce monsieur avec qui j'ai beaucoup discuté et qui m'a fait découvrir l'école du village. Plein de souvenirs.
J'aime bien ce que tu racontes. Souvent quand on parle du voyage, les gens vont dire, mais je peux pas, j'ai des enfants, je ne peux pas partir. Et toi tu es l'exemple contraire, parce que enfant tes parents t'emmenaient sur les routes du monde. Comment est-ce que l'enfant vit ça, vit les rencontres avec d'autres enfants dont il ne connaît pas la langue? Est-ce que tu te souviens avoir joué avec ces enfants, rigolé, avoir créé des liens d'amitié dans des pays où la langue n'était pas le trait d'union commun?
Ouais, alors ça c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais quand on emmène un gamin, qu'il est petit, de toute façon il se souvient de rien, ça sert à rien, etc. Moi je crois que c'est pas vrai quand on est petit. Alors ce qui est moi ce qui m'a frappé, c'est que je me souviens, quand on est petit, on prend tout dans la figure, tout, on n'a pas de barrière. Et par exemple je me souviens quand on est allé en Indonésie, la pauvreté est constante et la pauvreté se voit physiquement. Et ça, quand on est un enfant, ça nous marque. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui physiquement ont des problèmes, qui sont aveugles ou qui n'ont plus de jambes ou qui n'ont plus de bras. Et quand on est adulte, je crois qu'on met une distance, parce que je me souviens avoir habité à Lyon, par exemple. Bon, bah, quand on sort du train et qu'on va prendre le métro, eh bien, il y a plein de gens qui nous demandent de l'argent, qui sont très pauvres, etc. Et pour vivre dans le monde, eh ben, on met une distance. Quand on est petit, cette distance, en tout cas pour moi, elle n'y était pas. Donc je me suis pris plein de choses dans la figure, des images qui marquent. Mais du coup, je crois que c'est important. Et du coup, je pense que quand l'enfant voyage, c'est pas vrai, ça n'a pas d'impact. L'enfant, il a plein de choses qu'il emmagasine et après, il bricole avec tous ses souvenirs et il en fait quelque chose. Mais... Et puis aussi, ce qui m'a rassurée, c'est que j'ai rencontré beaucoup de voyageurs qui voyageaient avec leurs enfants petits par la suite. Et moi qui ai un petit peu peur de perdre ma liberté et qui suis pas prête d'avoir des enfants, ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit mais en fait un enfant c'est pas du tout un boulet qu'on s'accroche au pied, mais c'est quelqu'un avec qui on va partager après le voyage et c'est possible. J'ai rencontré des gens qui sont partis avec deux ânes et leur petit enfant voilà sur les routes marcher et voilà, donc c'est quelqu'un à qui on va faire découvrir le voyage. Et
bah, il y a des enfants dans le monde entier, dans tous les pays, dans toutes les cultures, les gens ont aussi des enfants et qui vivent très bien. Donc pourquoi pas y aller, oser affronter ses peurs et se dire que bah oui, si j'ai envie de voyager, je peux rendre ce rêve tout à fait possible. Je vais revenir à toi, à ton enfance, donc où tu as découvert des cultures grâce à tes parents qui t'ont emmené plus tard. Quand tu es ici en France, dans l'adolescence, dans le lycée ou à l'école, est-ce que tu sens une différence par rapport aux autres enfants du fait que tu aies déjà vécu cette pauvreté, que tu l'aies vue, que tu l'aies ressentie, qu'émotionnellement tu es...
Oui et non. En fait, je pense que faut pas. Le voyage, c'est bien, mais si on ne voyage pas, c'est pas un manque. C'est-à-dire que on peut dire oui, les gens qui voyagent sont beaucoup plus ouverts, etc. Non, en fait, on voyage tous les jours, même quand. Alors, ça paraît très banal ce que je dis, mais c'est vrai. Les gens, on les rencontre aussi ici, et il peut tout à fait nous arriver les mêmes expériences ici qu'ailleurs. Et du coup, non, il n'y a pas particulièrement de différence entre quelqu'un qui voyage et quelqu'un qui voyage pas. Moi, la seule chose que ça a créé chez moi, c'est que pendant la période adolescente, j'étais très politique et très voilà, ça m'avait marqué toutes ces images, toutes ces rencontres. Mais encore une fois, je me souviens très bien d'amis qui étaient aussi très concernés par ce qui se passait dans le monde entier, en France, qui avaient des avis, des valeurs, des revendications, des objectifs et pas forcément en voyageant. On peut avoir ça tout à fait en faisant autre chose. Donc voilà. En fait, ce qui me remet toujours sur la route, c'est le mouvement finalement. J'ai besoin de ce mouvement et c'est pour ça que j'ai du mal un peu à rester sur place, j'ai du mal à être posée quelque part, mais on peut aussi voyager de manière immobile, on peut bouger en France, etc. Donc, mais il n'y a pas de différence entre les gens qui voyagent et qui ne voyagent pas, je trouve que ce n'est pas vrai.
On va quand même s'intéresser à ton voyage à toi. Donc après le grand bivouac, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Tu disais que tu étais ici pendant 2 ans en tant que salarié. Tu as choisi de tourner cette page, pourquoi?
En fait, pendant que je travaillais au Grand Bivouac, pendant des vacances, je suis partie en Azerbaïdjan avec un ami. Et en Azerbaïdjan, on se baladait comme ça. Il n'y a pas vraiment de chemin de randonnée en Azerbaïdjan. Donc on regardait une montagne, on disait bon, on va aller dans cette direction et puis on verra bien. Et un jour, alors qu'on marchait dans un village, je croise une jeune femme, je lui dis bonjour. Elle me répond pas, bon ok, chacun continue sa route. Et puis plus loin, je la retrouve avec un autre garçon et ce garçon me fait comprendre que cette jeune femme, elle est sourde. Donc j'essaye de commencer à parler en langue des signes française que j'avais un petit peu appris. Et en fait, le contact se fait tout de suite. Et en fait, on était ravis toutes les deux d'avoir rencontré quelqu'un qui avait le même âge. Pour elle, c'était la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un d'un autre pays qui avait le même âge qu'elle et qui était une femme. Et moi, c'est aussi la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait mon âge, parce qu'habituellement, je rencontrais plutôt des enfants ou des adultes, parce que les jeunes, ils sont à l'université ou ils sont au travail, etc. Voilà, on a passé l'après-midi ensemble, donc une rencontre parmi d'autres.
Quel âge?
Alors, mon amie, elle a 27 ans, comme moi. Et quand on s'est rencontrés, donc c'était il y a 3 ans, on était un peu plus jeunes. Et voilà. Et en fait, j'ai pas l'habitude de dire oui, il s'est passé quelque chose, etc. Je crois pas du tout au destin ni à tout ça. Mais il s'est passé quelque chose. Et je me suis dit quelques jours plus tard, mais cette fille, je veux la revoir. Je sais en fait pourquoi je voulais la revoir. C'est parce que j'ai un peu du mal en France déjà sur le rapport homme-femme. C'est-à-dire que parfois, ça m'agace un peu. J'aimerais bien qu'on me voit d'abord comme quelqu'un avant de me voir comme une femme. Et en Azerbaïdjan, les tâches sont assez divisées. Les hommes ont une tâche précise, les femmes en ont d'autres. Et Pokuza, mon amie, en fait, du fait qu'elle soit sourde, elle a été éduquée par ses parents un peu comme un garçon. Et ça, on l'a repéré tout de suite, qu'on avait ça en commun. Et donc, on avait ce pétillement dans les yeux et cette envie de se rencontrer, se découvrir plus. Et donc, quelques jours plus tard, après cette rencontre, je me suis dit, je veux la revoir. J'ai envie de la rencontrer plus, de partager du temps avec elle. Et donc, j'ai demandé au Grand Bivouac un congé sans solde pour pouvoir retourner la voir. Donc, je suis repartie toute seule, sac au dos. Et ensuite, donc, quand je suis repartie à ce moment-là, moi, je faisais pas du tout de film. J'avais quand même pris une petite caméra pour me dire, j'enregistrerai quelques moments qu'on aura passés ensemble. Quand je suis arrivée chez elle, alors, ça a été un périple parce que je connaissais pas son nom, je connaissais pas le nom du village, je me souvenais juste la route que j'avais pris pour aller chez elle. Donc, après maintes péripéties, je l'ai retrouvée. Et donc, elle a accepté que je reste chez elle 5 jours, d'abord. Et donc, j'ai commencé à leur demander, est-ce que je peux filmer de temps en temps ? Pas de problème, filme si tu veux. Et je me souviens d'être dans une pièce de la maison, en train de les filmer, ils étaient en train de préparer des conserves. Et je me suis dit, mais c'est nul. Moi, j'ai envie de passer du temps avec eux. Et là, je suis dans un coin de la pièce à les observer avec ma caméra. C'est nul. Donc, j'ai mis la caméra dans mon sac. J'ai dit, je suis revenue pour elle, pour passer du temps avec elle et avec sa famille. La caméra, je m'en fiche. Et c'est elle qui, au bout de 5 jours, m'a dit, mais Camille, t'avais pas amené une caméra? Elle est où? Bon, elle est dans mon sac. Mais ça te dit pas qu'on aille filmer un peu dans le village et puis la montagne, tout ça? Bon, si tu veux. Donc après, elle m'a dit, reste un mois chez moi. Ok, pas de problème, j'étais ravie. Et ensemble, on allait filmer comme on va, je sais pas, boire un coup avec une amie ou comme on va faire du vélo. Bah nous, notre truc, c'était d'aller filmer dans le village, donc on se passait la caméra. Et c'est là que j'ai compris comment j'aimais filmer. Et là, ça a pris un autre sens et je me suis dit, mais c'est génial, filmer avec elle, ça c'est super. Et c'est elle, en fait, qui m'a vraiment donné l'envie de filmer. Et petit à petit, l'idée a germé dans ma tête que, ben voilà, maintenant j'avais envie de filmer. Donc ensuite, j'ai décidé un peu plus tard d'arrêter mon travail au Grand Bivouac, de faire une formation pour apprendre un peu à manier une caméra, parce que je ne savais pas du tout faire. Et après, je suis retournée la voir régulièrement. Et ce goût a toujours persisté grâce à elle. C'est vraiment elle qui m'a fait découvrir ça, comment j'aimais filmer. Et plus tard, on a décidé de faire ce film.
parler du film, je vais revenir à cette rencontre qui est très humaine finalement avant tout. C'est quand même ça qui est la base, qui est le terreau du projet qui est né derrière et du film que tu diffuses aujourd'hui. Cette rencontre donc avec Pokuza, tu dis elle, enfin on sent qu'il y a vraiment un lien qui s'est créé, mais sans la langue. Tu disais au début de cette interview qu'elle était sourde. Donc comment est-ce que on crée un lien fort et on arrive à se faire comprendre dans un pays qui n'est pas le sien, avec une langue qui est différente, une culture qui est différente, et en plus une amie ben, qui n'a pas l'usage de tous ses sens.
Alors, ça c'est marrant parce que tout le monde m'a dit mais comment t'as pu parler avec Pokuza qui est sourde, etc. En fait, Pokuza, c'est la seule personne avec qui j'arrivais à parler dès le début. Parce qu'en fait, quand on apprend la langue des signes, que ce soit en France ou ailleurs, les gens, ils commencent par nous parler en mime. Donc les mimes, tout le monde là, ou si on voulait, bon, on est à la radio, alors, mais on pourrait parler en mime et on se comprendrait. Donc Pokuza, elle a commencé à me parler en mime, c'est-à-dire elle utilisait tout son corps pour me parler. Et petit à petit, elle a enlevé les mimes. Le mime, c'est pas une langue, hein, c'est juste une manière de communiquer. Et petit à petit, plus j'apprenais sa langue, et plus elle enlevait le mime. Et donc en fait, la langue des signes, ensuite on la parle avec les mains, avec le visage, avec les expressions. Et avec Pokuza, voilà, ça s'est fait très vite parce que de toute façon, c'était cette langue qu'on avait finalement en commun. Et quand on est dedans et qu'il n'y a pas de traduction possible, on apprend extrêmement vite. Et puis il fallait dire qu'aussi qu'on avait très 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 envie de se parler et de se raconter plein de choses. Donc c'est allé très vite. Et c'est drôle parce que je connaissais pas du tout l'azéri, qui est la langue du pays. Donc pendant un an et demi, à chaque fois que j'allais chez elle, il n'y a qu'avec elle que je pouvais discuter. Et je comprenais pas du tout ce que les autres personnes disaient. J'ai une toute petite anecdote. En fait, c'était très drôle parce que je me souviens d'une fois où... il y avait eu un problème dans la famille, etc. Et la maman de Pokuza pleurait, il y avait eu une dispute. Et Pokuza demande à sa belle-sœur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma mère pleure? Parce que bien sûr, la dispute avait eu lieu en langue orale. Donc la belle-sœur, qui était énervée de toutes ces disputes, l'envoie balader et lui dit « Oh, j'ai pas envie de t'expliquer ». Donc Pokuza traverse la pièce, furieuse de pas comprendre ce qui se passait. Et moi... dans ces cas-là, j'étais dans un coin de la pièce, puis j'attendais que les tensions descendent. Et là, elle pose son regard sur moi et elle me dit « Camille, tu sais, toi, pourquoi ma mère, elle pleure ?» Je dis « Ben non, tu sais, moi, je suis comme toi, je comprends pas et tout. » Et là, grand sourire de Pokuza, elle me dit « Mais c'est génial, toi aussi, tu comprends rien !» Elle retourne voir sa belle-sœur et elle lui dit « Tu sais quoi, c'est fantastique, Camille non plus, elle comprend rien du tout à ce qui se passe !» Et alors, la belle-sœur, bien sûr, ça lui passait à 10 000 au-dessus. Donc, mais Pokuza et moi, on était ravis. Et donc, pendant un moment, on était toutes les deux dans notre bulle parce qu'il y avait que les instants où les gens parlaient en langue des signes qu'on était capable de comprendre. Et quand je suis arrivée au tout début chez elle, moi j'avais que mes yeux pour observer et que la langue de Pokuza pour parler. Et donc pendant pas mal de temps, je ne savais pas comment on dormait, à quel endroit, à quelle heure, je ne savais pas où on se lavait, quand on se lavait, comment on se lavait, je ne savais pas où on allait chercher l'eau, pourquoi on allait là plutôt qu'ici, parce qu'il y a deux sources pour aller chercher l'eau. Donc j'avais à peu près 2 ans d'âge. C'est elle qui m'a appris à manger avec les mains, parce qu'il y a une manière particulière de manger. C'est elle qui m'a appris à me laver. Je me souviens la première fois que je me suis lavée, je me suis retrouvée avec elle dans une pièce avec un baquet d'eau, avec de l'eau qui bouillait. Et puis j'ai eu un petit instant de doute, je ne savais pas s'il fallait rentrer dans la bassine ou pas. Donc je l'ai regardée en lui disant « comment je fais ?» Elle m'a dit « écoute, déshabille-toi, je vais te montrer ». Elle m'a lavée. Et voilà, donc c'est avec elle que j'ai appris. Et ensuite, à force de retourner chez eux, je me suis dit « je vais apprendre l'azéri pour pouvoir aussi parler avec les autres gens ». Et petit à petit, j'ai appris la langue. Donc maintenant, voilà, j'ai l'âge de quelqu'un de 10 ans, on va dire. On a discuté avec sa mère de ça la dernière fois. Elle m'a dit « oui, maintenant t'as 10 ans, c'est-à-dire que tu sais à peu près bien faire la vaisselle, t'as compris où on allait chercher l'eau. Bon, la lessive, c'est pas encore parfait, tu frottes pas très bien et t'étends pas très bien. Mais voilà, maintenant t'as compris... les bases et voilà. Donc je me suis vue grandir et ils m'ont vu grandir.
C'est génial. Là, on est en Azerbaïdjan. Donc c'est une rencontre que tu as faite il y a quelques années suite à une balade en montagne. Une amitié qui s'est créée, hein, qui s'est développée. Aujourd'hui, il y a un documentaire d'ailleurs, un film hein, qu'on peut voir ici au Grand Bivouac, dont on parlera tout à l'heure. Avant de continuer, j'aimerais juste que tu me décrives un petit peu la maison, l'endroit, le lieu. Donne-nous une dimension visuelle à cet endroit, à cette maison et à Pokuza.
Alors, Là où habite Pocusa, c'est en montagne, c'est à peu près 1500 mètres d'altitude. Donc voilà, un paysage de montagne. Le climat, c'est exactement le même qu'en France. Hiver pareil, été pareil. Donc des montagnes très vertes en été et enneigées en hiver. La maison, en fait, c'est assez amusant parce que dans tout le village, c'est pareil. Il y a des maisons très grandes en pierre, magnifiques, souvent sur deux étages. Et il y a une partie, en fait, qui est réservée pour le foin, etc. Et une toute petite partie qui est réservée aux gens. Donc chez Pocusa, par exemple, il y a une très grande maison qui est réservée au foin, aux animaux. Et une petite maison qui est constituée de deux pièces. Alors une pièce qui fait à peu près 4 mètres sur 5 où tout le monde vit, et une autre pièce où en fait on a entreposé les meubles, parce que quand il y a des mariages, et ben on offre des meubles. Donc là il y a les meubles qu'on a achetés à la ville, etc. Et quand on est ensemble dans la maison, alors ça varie souvent. Parfois il y a le père de Pocusa, sa mère Pocusa et moi, donc on est que 4. Et parfois on se retrouve à 9 parce que tous les frères et sœurs reviennent. Et donc tous les soirs et toute la journée on vit dans cette pièce de 4 mètres par 5. Donc dans cette pièce on cuisine. Alors avant il y avait un petit poêle sur lequel on cuisinait, au-dessus duquel séchait le linge. Aujourd'hui ça a été remplacé par une gazinière parce que le gaz est arrivé il y a un an. Et puis alors dans cette pièce c'est magnifique, les murs sont toujours peints, donc là chez Pocusa ils sont peints en rose. Et puis sur une grande partie du mur, donc la partie basse, ils ont mis des tentures. Donc c'est très coloré chez Pocusa, c'est très rouge. Il y a une petite fenêtre bleu turquoise. Donc parfois on se croirait un peu en Grèce ou au bord de la mer. C'est marrant, on est au sommet des montagnes, mais on se croirait à la mer dans un décor comme ça. Et puis le soir, eh bien, en fait, on a des petits matelas que la maman de Pocusa a confectionnés, qui sont rouges aussi, à l'intérieur duquel il y a de la laine de chèvre. Et puis on met les matelas et on dort tous les uns à côté des autres. Le matin, on les enlève, on nettoie tout ça, on passe un coup de balai, on déjeune. Donc c'est la même pièce en fait où on dort, où on mange, où on joue, où on reçoit les gens. Voilà.
Si je voulais y aller dans cette maison, là, en partant d'Albertville, comment est-ce que j'y vais ?
Oh, il y a plein de manières d'y aller, en vélo, à pied, en voiture, en avion. Et puis, quand on arrive en Azerbaïdjan, alors on arrive à la capitale qui s'appelle Bakou. Et ensuite, eh bien, il faut descendre dans le sud en bus. C'est à peu près à 5 heures de la capitale. Et on se rapproche en fait de la frontière avec l'Iran. Et puis on se retrouve dans une petite ville qui s'appelle Lerik, une ville de 3000 habitants à peu près. Et ensuite de cette ville, eh bien, il y a des 4x4 de l'armée, de l'époque de l'armée de l'URSS soviétique. Et voilà, et on monte là sur une piste cabossée pendant quelques kilomètres. En fait, ça fait une bonne demi-heure. Et on croise plusieurs villages.
Donc c'est vraiment un tout petit village dans lequel on est là, en Azerbaïdjan, entouré par des montagnes.
Il y a 500 habitants dans le village de mon ami.
Donc là, on est chez elle, mais est-ce qu'elle est déjà venue chez toi, ici en France ?
Ah, c'est une bonne question. En fait, Pocusa, elle m'a beaucoup... Dès la première fois, elle m'a dit « Camille, je voudrais vraiment venir voir à quoi ça ressemble chez toi ». Pocusa, elle rêve un peu de découvrir plein de choses. Elle est très, très, très curieuse. Et voilà, elle a toujours rêvé de venir voir à quoi ça ressemblait chez moi. Donc il y a quelques années, on avait fait, quand elle m'a donné le goût pour la caméra, que j'avais cette petite caméra avec moi, on avait filmé ensemble plusieurs images et j'ai fait une petite installation vidéo. Je m'étais dit, bah voilà, cette installation vidéo, je vais la présenter dans quelques festivals. Et puis avec l'argent que je collecterai, eh bien, je lui proposerai de venir et de découvrir à quoi ça ressemble ici. Et puis finalement, ça n'a pas pu se faire, tout simplement parce que ses parents n'ont pas accepté. Il était question qu'elle vienne pour le grand bivouac. Donc pareil, j'ai redemandé, etc. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Son père n'est pas d'accord. Mais voilà, on est très bons amis et c'est vraiment le rêve de Pocusa. Donc ben voilà, il y a pas de raison qu'on n'y croit pas ensemble. Et j'attends et j'espère qu'un jour ce sera possible. En tout cas, régulièrement, on repose la question ensemble. Voilà.
Donc on va aborder un côté un peu culturel. Pocusa aujourd'hui a 27 ans, mais son père n'est pas d'accord. Pourquoi Pocusa ne peut pas venir ici ?
Pocusa, elle ne peut pas venir ici parce que... Alors, Parfois, ses parents me disent, tu comprends, elle est sourde, et qu'est-ce qui va se passer, etc. Après, cette question, elle se pose de moins en moins parce qu'on se connaît vraiment très bien. Il y a possibilité aussi que mes parents viennent les rencontrer, etc. Donc, c'est pas tellement la question de la sécurité, je pense, parce qu'on a tous confiance les uns en les autres. C'est en fait aussi un problème par rapport à la famille, c'est-à-dire que Pocuzal a beaucoup de frères, elle a une sœur aussi, et tout le monde rêve de venir ici. Voilà. Donc pourquoi elle et pas les autres, etc.
Quelle va être la vie de Pocuzal dans les prochaines années? Comment est-ce qu'elle va se grandir en tant que femme et qu'est-ce qu'elle va devenir dans la société d'Azerbaïdjan?
Alors elle, ça c'est elle qui décidera, qui fera en fonction de ce qui lui arrive, etc. Aujourd'hui, alors c'est marrant parce qu'au tout début je disais qu'on avait cette chose en commun de... Ouais, peut-être de se considérer d'abord comme des individus, pas tellement en tant que femme ou en tant qu'homme. Ça, c'est ce que j'ai ressenti la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis quand j'y suis retournée, j'ai été vraiment surprise parce qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup projeté de choses sur elle. Et quand je suis retournée la voir, elle m'a beaucoup, 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 beaucoup parlé de mariage. Alors au début, ça me frustrait un peu, j'étais un peu déçue. Parce que elle avait tendance à me dire ah mais parle de moi à tes amis, dis-leur que je serai une très bonne femme, que je ferai très bien à manger, que mon mari il aura rien à s'occuper, que je serai une femme parfaite. Donc ça me chagrinait un peu et puis parfois ça m'énervait. Et puis après je me suis dit mais attends voilà, Pocuza c'est elle, j'ai peut-être projeté beaucoup de choses sur elle, je me suis projetée dans elle, et en fait, Pocuza, c'est elle, elle a décidé que ce serait comme ça aussi, c'est sa vie qu'elle prend en main, et donc petit à petit, je me suis mise à écouter ce qu'elle me disait, et à peut-être comprendre un peu son rêve de pouvoir se marier, et à rentrer dans son histoire de pouvoir se marier, elle y croit vraiment. Fermement, voilà. Parfois, elle me dit qu'elle a rencontré des gens et que un soir, la personne qu'elle a rencontrée viendra et ils partiront tous les deux de nuit. Alors, elle me dit, au début, mes parents, ils m'en voudront d'être partie comme ça à la sauvette sans les prévenir. Et puis après, ils comprendront. Après, je me marierai et puis j'aurai une vie ailleurs, une vie de famille. Et voilà.
Et Camille, la suite à Camille?
La suite à Camille, c'est une bonne question. Ce que je retiens, c'est que j'ai beaucoup aimé prendre le temps de faire ce film. D'abord, au début, j'avais pas l'idée de faire ce film. Après, l'idée est venue. Et après, j'ai pris le temps. Et ça vaut tout l'or du monde, je crois. En tout cas, pour moi. Parce que d'abord, c'est une histoire qu'on avait ensemble. Et ensuite... parce que Pocuza, elle a la pêche et qu'elle a le sourire, elle est... Voilà, elle y croit. Elle y croit en la vie, elle y croit en ses rêves. Et donc, du coup, on a décidé toutes les deux de faire partager ça à d'autres gens parce qu'on trouvait ça beau, on trouvait ça amusant, marrant. Voilà, ça met la pêche. Donc voilà, du coup, on a décidé de faire ce film et de faire partager un bout de son histoire. Mais voilà, ce que je retiens, c'est d'avoir pris le temps. Et donc, dans l'avenir, j'aimerais bien continuer à réaliser des films. Je vais en réaliser un en Inde du Sud, mais je veux prendre le temps. Prendre le temps de rencontrer des gens, prendre le temps d'apprendre la langue. Voilà, prendre le temps.
Merci Camille.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.